Bienvenue au podcast Cœur à cœur. Je suis votre hôte, Julie, et ici, je vous parle sans prétention de magie, de yoga, de spiritualité, de vie de famille, de mes expériences et apprentissages en lien avec mon mode de vie et mes découvertes, toujours avec plein d'amour. Un podcast qui met de l'avant un quotidien simple, doux et bienveillant, sans artifice ni structure, de mon cœur au vôtre. Bonne écoute! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh my God, ça fait tellement longtemps que je suis pas venue ici enregistrer un podcast. Le dernier épisode date du mois d'août dernier et on est maintenant en avril. Donc, ça fait pas loin de 8 mois que je n'étais pas venue ici vous parler. J'avais vraiment hâte de venir jaser, de venir partager un peu mes apprentissages, mes inspirations du moment. Puis j'avais de la misère à trouver le temps de faire ça, un moment où c'était calme à la maison, étant donné que les enfants sont là à temps plein, puis ils ont beaucoup d'énergie, ils jouent beaucoup. Et les soirs, bien souvent, je suis rendue fatiguée, donc ça me tente pas toujours de m'asseoir pour enregistrer. Mais là, je suis bien contente d'être de retour. Ah, je sais même pas par où commencer. Comme d'habitude, j'ai rien prévu, rien écrit. Donc, j'ai aucune idée où cet épisode-là va me mener. Mais j'avais envie de prendre le temps ce soir. Mon conjoint vient de partir avec les enfants pour l'heure du compte à la bibliothèque. Donc, c'est un moment parfait. J'ai encore une belle énergie pour terminer la soirée, donc je me suis dit pourquoi pas en profiter. Donc, par où commencer? Je me souviens même pas de ce que j'ai dit dans le dernier podcast. Ce que je sais par contre, c'est qu'au mois d'août, il me semble qu'on savait que notre fille, donc notre aînée, allait commencer l'école, à l'école alternative. Puis, ça m'angoissait beaucoup. De me séparer d'elle, de penser à tous les petits virus et tout qu'il y avait possiblement à l'école, étant donné que ces traitements n'étaient pas encore terminés. Ils ne sont pas encore terminés à ce jour d'ailleurs. Ils terminent, je crois, dans 3 cycles, donc dans environ 1 mois et demi, 2 mois. Mais bon, donc c'est ça. Ce qui était... le plus récent, si on veut, dans ma vie à ce moment-là, c'était l'entrée à l'école de ma grande fille, l'entrée à la maternelle. Elle avait beaucoup hâte. Moi, de mon côté, j'avais hâte qu'elle puisse vivre le volet alternatif de l'école, étant donné que j'ai travaillé sur ce projet-là comme parent fondateur quand elle avait 6 mois. Donc, ça fait très longtemps que je suivais ce projet-là. Puis, j'avais hâte qu'elle ait la chance de vivre ce beau projet pour lequel j'avais travaillé, pour lequel j'avais donné des idées, que j'avais rêvé avec d'autres parents. Puis, son entrée à l'école s'est super bien passée. Elle aimait beaucoup ça. Son enseignante était vraiment une perle. Les parents qui étaient présents aussi, c'était vraiment génial. Mais étant donné qu'elle est encore immunosupprimée, et que cet automne, ça a été, je crois, un automne record pour ce qui est des différentes maladies chez les enfants. Il y avait eu plusieurs cas d'infection ou de virus, je ne sais pas trop, à streptocoque, impétigo, scarlatine, des choses comme ça, en plus des virus habituels. Donc, à un moment donné, pour protéger sa santé, après avoir échangé avec son infirmière, on a choisi de la retirer de l'école. Techniquement, ça ne lui fait pas perdre sa place parce qu'elle a quand même fréquenté cette année. Donc, elle pourrait y retourner l'an prochain pour sa première année puis vivre le reste de son primaire à l'école alternative. De notre côté, on a beaucoup réfléchi à ce niveau-là. Puis, on aime vraiment beaucoup l'école maison. Ça nous apporte une tellement belle liberté dans notre horaire, une tellement belle liberté de pouvoir suivre le rythme des enfants, suivre leur énergie, suivre le flow, les opportunités qui se présentent, que c'est ça, on est vraiment sous le charme de cette, cette approche-là d'éducation. C'est pas facile tous les jours de motiver son enfant pour faire ses trucs d'école, etc. Mais dans l'ensemble, on aime vraiment le quotidien depuis qu'on fait l'école à la maison. Donc là, on est en train de regarder pour peut-être continuer l'an prochain. L'an prochain, peut-être qu'on irait plutôt sur une approche éclectique, où on pourrait combiner le unschooling, le game schooling, puis l'éducation en nature et tout ça avec les approches peut-être un peu plus traditionnelles. Question de respecter ce qu'on a le goût de faire, les envies des enfants, que les enfants aient beaucoup de temps pour jouer. Donc, présentement, presque tout mon temps libre, je l'investis à penser à cet avenir-là, à ce futur-là. Puis, ça me donne envie, en fait, de vous parler justement au niveau des derniers mois, parce que dans mes temps libres, je fais beaucoup de développement personnel, je lis beaucoup de livres à ce sujet-là, j'écoute des podcasts, des livres audio, des vidéos sur YouTube, je fais des formations, tout ça. Puis, je me souviens plus c'était où, je crois que c'était avec l'application Blinkist, qui est en fait une application qui offre des livres audio en résumé. Il me semble que ça me venait de là. Je sais pas si c'était du livre Tiny Habits. En tout cas, si je me souviens, je vous donnerai la référence officielle. Mais, en tout cas, donc que ça vienne de là ou pas, c'est pas tellement grave. Toujours est-il, dans une de ces lectures ou de ces livres audio que j'ai lu ou écouté, ça parlait de qu'on doit agir comme si on était la personne qui agit de la manière dont on souhaite. Par exemple, moi j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec ma constance au niveau de mon yoga. Entre autres, même si en juin dernier, j'ai terminé ma formation professorale. Ça fait des années que j'ai une pratique de yoga très irrégulière, surtout en termes d'asana, donc les postures de yoga, parce que j'ai toujours fait beaucoup de techniques de respiration, puis j'ai beaucoup intégré la méditation dans mon quotidien depuis des années, ça aussi. Mais j'avais beaucoup de blocages pour ce qui était d'aller sur mon tapis, donc je faisais des pratiques à gauche et à droite, sans que ce soit très, très régulier. Puis, je me culpabilisais beaucoup à ce niveau-là. Je me sentais très imposteur de vouloir être professeur de yoga quand moi-même, j'avais pas une très bonne pratique. Mais au final, c'est comme si j'avais accepté de moi que j'étais une personne qui n'avait pas cette discipline de faire quelque chose d'une manière quotidienne, d'une manière régulière. Je suis beaucoup quelqu'un, j'ai beaucoup d'énergie de lion, j'aime beaucoup tout ce qui est le fun, ce qui est créatif, tout ce qui me permet de briller, de rayonner, de faire rayonner mon cœur d'enfant. Donc, ça prenait pas beaucoup de temps pour que quelque chose, moi vraiment que je trouvais ça plus plate, moins le fun, je le tassais jusqu'à ce que je trouve une manière créative de trouver ça amusant puis de recommencer. Donc, c'était comme si on veut, un narratif à propos de moi-même auquel j'avais adhéré puis que moi-même je véhiculais. Donc, je disais souvent à la blague que j'avais pas de discipline, pas de constance. Je pigeais beaucoup la carte du 8 de Pentacle dans mes tirages de tarot, qui est une carte de discipline personnelle, justement, puis je le voyais vraiment comme un rappel que je dois vraiment travailler ça chez moi. Ce qui est drôle quand même, parce que j'ai été une athlète de haut niveau de softball, j'ai joué, j'ai pratiqué ce sport-là d'une manière très régulière, j'ai été au sport-études, donc j'avais quand même dans le passé eu une très belle constance. J'en ai fait pendant un moment pratiquement tous les jours ou 6 jours sur 7 quand je jouais dans différentes équipes en plus du sport-études et tout. Donc, je savais que c'était en quelque part en moi, mais j'avais l'impression que c'était parti. J'avais l'impression que ça avait été facile dans ce temps-là parce que c'était quelque chose que je faisais en équipe, qui était mon réseau social, qui me faisait voir des amis. pour lequel j'avais un engagement envers pas seulement moi, mais les autres, qui était une pratique aussi où j'avais envie de m'améliorer parce que quand on performe bien, mais c'est toute l'équipe qui en bénéficie, alors que à l'inverse, les moments où on laisse tomber l'entraînement, où on est moins dévoué à sa pratique, ben on fait peut-être plus d'erreurs, on laisse passer des balles, on devient moins un bon frappeur ou des choses comme ça. Donc, en tout cas. Et donc, je savais que c'était en moi, mais j'avais vraiment été déconnectée de ça. J'avais cru ma propre croyance limitante que c'était impossible pour moi d'avoir une pratique régulière jusqu'à tout récemment où, en écoutant ce fameux livre ou en lisant ce fameux passage dans un livre, où on parlait de décider de devenir une personne qui agit de la manière dont on souhaite. Et c'est là que, en fait, c'est pas immédiatement, c'est comme peut-être 2, 3 mois plus tard que j'ai enfin décidé de devenir une personne qui faisait du yoga au quotidien, qui créait de l'espace dans son quotidien pour s'assurer d'avoir de la place pour la pratique. Je vais changer mon jargon parce que là, je parle de moi, on dirait à la troisième personne. Je trouve ça mélangeant et un peu étrange. J'ai l'impression d'être régent dans la petite vie. Donc, mais c'est ça. Donc, j'ai décidé de prioriser cette pratique-là dans mon quotidien, de tasser les excuses. J'ai fait la même chose que j'ai fait toutes les autres fois avant où j'avais essayé d'avoir une pratique plus régulière. Donc, les trucs qui fonctionnent bien pour moi, si ça vous intéresse. J'ai une super pièce magique dans la maison qui est comme le bureau slash ma pièce de magie sorcière et yoga que j'adore, qui a une super belle vibe, une belle énergie. J'ai plein d'instruments de sandaling, tous mes jeux de tarot, d'oracle, mes cristaux, tous mes livres de développement personnel, c'est mes encens, des bougies, en tout cas. Il manque rien dans cette pièce-là pour que ça soit l'endroit par excellence pour faire mon yoga, que j'ai envie d'y passer plus de temps. Mais je me suis rendu compte dans mon quotidien que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est quand je fais le yoga, quand les enfants sont réveillés. Parce qu'il se réveille encore beaucoup la nuit, donc ça ne me tentait pas vraiment pour l'instant de me lever vraiment plus tôt. J'ai plutôt peur en me réveillant plus tôt de les réveiller et qu'ensuite ils soient un peu marabouts toute la journée parce qu'ils sont fatigués, parce que j'aurais pas le choix de marcher en haut de leur chambre pour me rendre à cette pièce-là. Et la maison est quand même une vieille maison, donc on entend vraiment les pas quand quelqu'un marche. Puis les enfants ont quand même le sommeil léger, surtout quand il commence à faire clair. Donc, bref. Donc, depuis 2 mois et demi environ, j'ai mis mon tapis de yoga dans la cuisine avec des blocs, une couverture. Donc, tout mon matériel que j'utilise vraiment comme à chaque séance. Et tous les jours, quand je sens que c'est le bon moment, les enfants sont en train de jouer ensemble ou ils écoutent une petite émission. Ils ont eu déjà une petite collation, des choses comme ça. Donc, quand tu sais, j'essaie de mettre les chances de mon côté d'éviter les interruptions avant de m'installer. Donc, puis je déroule mon tapis dans ma cuisine. J'ai quand même beaucoup de place entre la cuisine et la salle à manger, donc ça me donne vraiment beaucoup d'espace. Là, je peux facilement me coucher en étoile par terre, puis il y a de l'espace autour. Donc, ça fonctionne vraiment bien pour moi. Ça fait un moment que j'avais compris que de laisser mon tapis dérouler, ou du moins extrêmement facilement accessible, c'était vraiment ça qui était gagnant. Il fut un temps dans le passé où mon tapis était comme dans un sac de yoga hyper beau que j'adore, mais que des fois je perdais presque 5 minutes juste à m'installer. Puis sur une séance, par exemple, de 30 minutes, bien là, ça devenait 35 minutes. Là, j'étais plus loin des enfants. Donc, s'ils me demandaient quelque chose, je devais faire pause à ma vidéo ou arrêter ma séance quand je fais des séances que je guide moi-même. Donc, ça m'enlevait un peu de ce beat-là, de ce rythme-là personnel que je voulais suivre pour ma pratique. Donc, jusqu'à date, c'est ce qui a vraiment bien fonctionné. Et je suis très fière de dire maintenant que. J'ai fait du yoga tous les jours depuis. Donc, je crois que ça fait 2 mois ou 2 mois et demi. Là, j'ai comme arrêté de compter. Au début, j'ai décidé de faire un défi de 30 jours avec Yoga with Adrienne parce que j'adore vraiment Adrienne, j'adore son approche, ses petites blagues, son chien Benji. J'aime les enchaînements qu'elle propose, j'aime la variété pardon, des séances qu'elle propose. On travaille quand même la musculature, mais vraiment en douceur. Les séances sont en moyenne entre 20 et 35 minutes, donc c'est parfait pour moi étant donné que je fais ça dans la journée. Je sais que les enfants vont pas être dans une période très concentrée de jeu pendant comme 1 heure, donc pour moi, c'est pas vraiment ce qui m'appelle pour l'instant, faire des séances plus longues que ça. Ça fonctionne bien pour tout le monde. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis ensuite, j'ai décidé de commencer un nouveau défi, mais cette fois-ci, je l'ai entrecoupé des vidéos que j'avais besoin au jour le jour. Donc, par exemple, quand j'ai eu mes dernières règles, j'ai plutôt choisi de faire des postures qui étaient supportantes pour le cycle menstruel. Récemment aussi, les enfants ont eu la gastro. Donc là, j'ai fait une séance de yoga sur le sofa du salon. Question de garder ma pratique bien active, de continuer à être une personne qui fait ça tous les jours, à pas chercher des excuses, même si ça aurait été très facile ce jour-là. En fait, il y a une journée où j'ai carrément oublié. Donc, c'est vrai, cette journée-là, je n'avais pas fait de posture. J'avais quand même, cependant, fait une méditation et des respirations qui font aussi partie du yoga. Donc, je ne me tape pas sur la tête avec ça. Je suis très fière de moi quand même. Et il m'est arrivé l'autre jour, alors que nous allions souper chez des amis, d'être rendue dans la voiture et de me rendre compte que j'ai oublié de faire ma séquence de yoga. Et je suis allée sur YouTube et j'ai trouvé une séquence qui se faisait dans la voiture et je l'ai faite pendant qu'on roulait. En fait, c'était une séquence pour l'avion, si je ne me trompe pas. Tout ça pour dire que rien n'est impossible. Il est jamais trop tard, en fait, pour décider de reprendre ce qu'on a laissé. Si je m'étais rendu compte en me couchant que j'avais oublié de faire ma séance, il y a plusieurs postures qui se font très bien couchées. Et sinon, comme je l'ai dit, dans le yoga, il n'y a pas seulement les postures. Moi, j'ai mis beaucoup l'emphase là-dessus parce que c'était ce que je voulais travailler. Mais ne serait-ce que prendre le temps de faire quelques respirations, de faire une méditation, de faire un peu d'étude de soi. Le Svadhyaya Yoga, qui est en fait l'étude de soi par les textes sacrés. Donc, tout ce qui est journaling ou c'est ça, des trucs un peu plus introspectifs, ça fait quand même partie d'une pratique de yoga très saine, très régulière. Les purifications également, donc le pot neti, se gratter la langue, des choses comme ça fait également partie de ça. Ou simplement de profiter d'un moment où on est concentré pour faire peut-être une moudra. Donc, il y a vraiment moyen, facilement, ça prend pas de temps. On peut vraiment, c'est ça, on peut devenir la personne qu'on souhaite être sur un aspect, même si on a toujours cru qu'on l'était pas, ou même si le temps nous a prouvé que on avait besoin de faire un effort supplémentaire, comme dans mon cas. Et, oh mon Dieu, je me sens tellement fière de moi. Je me sens tellement bien aussi. Puis, je l'ai vu très vite dans ma pratique, l'amélioration de mon équilibre, mon aisance dans chacune des postures. C'est vraiment amélioré. Il n'y avait pas vraiment de posture que j'avais de la difficulté à faire, mais il y avait des postures où ça me prenait du temps à chaque fois que je prenais cette posture-là pour m'y sentir bien, pour m'y sentir à l'aise, pour ressentir les bienfaits qui étaient au-delà de mon corps physique. Puis depuis que j'ai une pratique régulière, je me rends vraiment compte à quel point c'est vraiment le fun. C'est plus le fun dans mon corps, chaque posture. Je sens les différences d'une journée à l'autre. Il y a des jours où je me sens un peu l'estomac barbouillé. Le jour de mon ovulation, entre autres, là, j'ai toujours un peu l'estomac à l'envers. Donc, ça me sert bien d'avoir cette pratique régulière-là parce que maintenant, je suis plus à l'écoute de mon corps, puis je me rends compte plus facilement, on dirait, de comment je me sens, de pourquoi je me sens comme ça. Puis ça me permet d'ajuster juste avant que les enfants aient la gastro, moi aussi j'avais eu comme une journée où je me sentais un peu bizarre, là, vraiment comme un petit mal de cœur qui planait et tout. Donc j'avais fait beaucoup de postures qui aidaient à la digestion et tout. Puis finalement, je m'étais sentie super bien. J'avais passé une belle nuit après ça. Je dors vraiment bien aussi. J'ai jamais eu de misère à m'endormir, mais je me suis souvent réveillée dans le passé. Puis maintenant, je me lève là, peut-être une fois dans la nuit pour aller aux toilettes, pas tout le temps. Donc je vois vraiment beaucoup de bienfaits à ce niveau-là. Je me sens moins fatiguée aussi dans mon quotidien, entre autres parce que je dors mieux, aussi parce que j'ai beaucoup diminué ma consommation de café. J'en ai jamais bu tant que ça, j'en buvais comme un ou deux, mais je trouvais que j'avais toujours un crash en après-midi. Donc souvent, je buvais un le matin, puis un autre comme en début d'après-midi pour contrer un peu ce crash-là. Puis maintenant, je me fais le matin soit un petit cacao ou un café de champignons. Donc, qui contient de la caféine, mais vraiment moins. Je crois que c'est comme la moitié moins, en plus d'avoir les bienfaits des différents champignons. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 différents. Puis, je me sens vraiment moins fatiguée. J'ai plus vraiment de gros dents d'énergie en après-midi. Donc, je crois que c'est un petit melting pot de tous ces changements-là qui m'aident aussi à me sentir plus énergique. Aussi au niveau de l'énergie, j'ai recommencé à porter un bracelet qui compte les pas parce qu'en étant à la maison tout le temps, je m'étais rendu compte que c'était beaucoup plus facile d'être très sédentaire. Surtout l'hiver, on a eu tellement de neige à la maison, c'est ridicule, là, il en reste encore comme un pied et demi, 2 pieds à quelques endroits sur le terrain. Puis on est quand même rendu le 19 avril. Et la semaine passée, là, je pouvais caler comme jusqu'aux hanches, quand même encore. Donc, tu sais, on n'a vraiment pas sorti autant que d'habitude. Avec toute cette neige-là, on dirait que c'était pas le fun. C'est comme la neige qui renfonçait. Donc, c'est ça, on a été beaucoup plus en dedans. On a fait beaucoup de bricolage. On a lu beaucoup au bord du feu. On a lu beaucoup dans le salon, dans la journée, peu importe. J'ai lu beaucoup mes propres romans, mes propres livres. J'ai fait beaucoup de broderies, des choses comme ça. Mais, donc c'est ça, j'avais de la difficulté à juste casser ce mode de vie un peu plus sédentaire. Donc maintenant, j'essaie de faire au moins 8 000 pas, mais idéalement 10 000 à tous les jours. Et puis, ça arrive peut-être une journée par semaine là, où je ne l'atteins pas. Souvent, les journées où je fais plus de préparation pour la semaine, là, comme quand je planifie qu'est-ce qu'on va faire pour l'école, les choses comme ça, parce que là, je passe plus de temps assise. Mais sinon, j'y arrive vraiment toujours. Puis encore là, c'est pas une question de se taper sur les doigts, sur la tête, je sais pas trop. Je me souviens plus de l'expression. Mais c'est ça. C'est vraiment juste comme une petite source de motivation aussi. Puis ça me permet parfois, il est rendu 1 h l'après-midi, puis là, je fais comme oups, j'ai peut-être juste 2 500 pas de fait, donc ça serait le temps que je m'active. Donc ça me permet aussi d'avoir un rappel bienveillant que ça va être bien pour moi, pour mon corps, pour mon énergie de bouger davantage. Donc, je pense que ça aussi, ça contribue vraiment à ce que je me sente mieux. Puis, quand je travaillais dans un bureau, j'avais vraiment de la misère. Donc, quand j'étais directrice à la maison des jeunes et tout, surtout quand je travaillais toute seule de jour, mis à part pour aller à la salle de bain, pour aller dans la cuisine, me faire une tisane ou un thé, je me levais pratiquement pas. Donc, j'avais vraiment de la misère à faire beaucoup de pas dans ce temps-là, mais maintenant, c'est ça, c'est beaucoup plus facile, surtout que j'ai un ami bienveillant qui me le rappelle. Donc, ouais, c'est ça. Donc, je suis maintenant une personne qui a une pratique régulière de yoga. J'arrête pas de le dire, je me trouve bien drôle à cause de ça parce que ça peut simplement changer ma relation avec le yoga, ça a changé ma relation avec ma discipline en général. Donc, comme là, j'ai décidé que j'étais une personne qui allait s'entraîner, juste vraiment pour le plaisir, puis aussi pour renforcer les muscles, ben mes muscles, pas les muscles, pour renforcer mes muscles qui vont supporter ma pratique de yoga, justement. Donc, j'ai pas commencé encore. Je me suis inscrite en fait à une plateforme qui a l'air super bienveillante, super motivante, puis qui est vraiment une approche holistique, qui est vraiment pas axée sur la perte de poids, puis sur les standards là, de la société que j'ai pas envie de mettre de l'avant. Donc ça commence le 24 avril, donc dans un peu moins qu'une semaine. Donc on s'en reparlera si je suis constante à ce niveau-là. Puis je pense que ça va être un super beau complément pour mon yoga, justement. Puis aussi pour reconnecter à mon corps qui est fort, qui a été fort très longtemps. Puis que depuis la naissance des enfants, en fait, même avant, depuis quand on était en fertilité, que j'ai vraiment senti un relâchement et tout. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer pour moi à ce niveau-là de mon objectif d'être une personne qui s'entraîne. Et encore une fois, je ne me mets pas de pression, c'est vraiment juste pour mon bien-être, pour me sentir plus énergique et plus supportée par mon propre corps pour ma pratique. Donc, je crois que la plateforme vise 5 jours semaine dans mon quotidien. Je vais voir aussi avec les enfants, tu sais, s'ils veulent le faire avec moi, mais ça va être beaucoup plus facile d'intégrer ça parce que je ne laisse pas de côté ma pratique de yoga. Donc là, les entraînements vont me demander un bon 15 à 30 minutes par jour, en plus de mon yoga qui est comme 15 à 40 minutes, 20 à 40 minutes. Donc, j'ai quand même besoin d'une bonne quarantaine de minutes à une heure et demie par jour de temps de disponible pour faire tout ça. Donc, peut-être que c'est là que ça va clasher un peu. On va voir. J'ai espoir. Quand il fait beau aussi, je trouve que c'est plus facile. Comme là, j'ai l'intention, aussitôt que le balcon va être sec, d'amener ma pratique de yoga à l'extérieur. Donc peut-être je ferai mon yoga pendant que les enfants jouent dehors, pendant qu'ils ramassent des petits cailloux, puis des branches, puis des choses comme ça pour faire des soupes. Souvent, je les regarde, puis je les trouve bien mignons, mais je vais pas passer nécessairement 1 heure à ramasser des cailloux avec eux. Souvent un petit 10-15 minutes, puis après ça, je vais comme sur le balcon, puis je fais la lecture en les surveillant ou je lis à côté d'eux. Donc, je crois que ça va être plus le fun aussi pour moi de pouvoir combiner les deux parce que ça n'hypothéquera pas notre temps ensemble trop, trop. Donc, il y a ça que j'ai vraiment hâte de pouvoir vous reparler. Je sais pas si je vais avoir l'assiduité au niveau de l'enregistrement de podcast toutefois, mais bon, tout est possible. et sinon, pour ce qui est aussi d'être une personne qui agit d'une certaine façon, je me suis trouvée aussi vraiment, je me trouvais bien drôle parce que moi j'aime vraiment quand la maison est propre, bien rangée, épurée et tout, mais je suis vraiment pas quelqu'un qui aime faire du ménage. Comme j'apprécie faire un petit peu de nettoyage, un petit peu là, tu sais, laver la toilette parce que c'est le fun une toilette qui est propre par exemple, ça prend pas trop de temps ou tu sais quand je lave les planchers, je trouve ça vraiment le fun. Et ça sent bon, ils sont brillants et tout. Mais il y a toujours une partie de moi qui trouve ça tellement une grande perte de temps parce que ça revient sale pratiquement aussi vite que c'est devenu propre. Donc, je le fais quand même, là. On vit pas dans une soue à cochon. je fais quand même le ménage à tous les jours, mais j'y trouve pas nécessairement tant de plaisir. Et là, en fait, dans mon objectif de devenir cette personne qui éprouve plus de plaisir à faire du ménage, je me suis comme fait un genre de petit calendrier mental de certaines tâches, quel jour je les fais par rapport à notre horaire quotidien, par rapport à nos semaines. Donc, par exemple, pour le lavage, je le sais la fin de semaine qu'on passe à travers tout et j'ai pris la décision de le faire toujours du lavage le mardi et le jeudi. C'est sûr que là, on vient de vivre, par exemple, la gastro des enfants. J'en ai fait, évidemment, pas seulement ces jours-là. Je le fais aussi quand c'est nécessaire. Mais c'est ça. Je suis devenue une personne qui a un horaire de lavage qui est vraiment. C'est vraiment banal, mais moi, dans mon quotidien, je trouve que ça m'aide beaucoup parce que. On dirait que j'ai pas besoin de me poser la question, puis je suis jamais submergée par cette tâche-là. J'ai jamais comme 4 paniers à linge de vêtements à plier ou les paniers qui débordent et tout avec ce rythme-là. Donc, puis tu sais, on a quand même assez de linge, là. Je pourrais faire du lavage seulement une fois par semaine, mais ça me prendrait comme la journée au complet à gérer, puis j'aime pas ça assez, là, pour y consacrer une journée. Donc, tu sais, à ce rythme-là, les choses sont sèches. Comme le lendemain, ce qu'on étend sur le rack ou ce qu'on va mettre sur la corde à linge, ça va être prêt le jour même. Donc, je peux le plier, le ranger. J'ai commencé à intégrer beaucoup les enfants aussi dans cette tâche-là. Donc, ils m'aident. C'est eux qui catégorisent leurs vêtements. Donc, ils vont mettre ensemble. C'est eux qui vont plier, comme par exemple, tous les petits pyjamas, qui vont tous les mettre ensemble. Puis ensuite, ils sont capables d'aller le serrer. Pour moi, ça fait partie du home schooling. De montrer ça aux enfants, même si ils ont seulement 4 et 6 ans, ça reste que ça fait partie du quotidien. Les enfants à cet âge-là aiment ça, donc j'en profite parce que peut-être que quand ils vont être ados, ça va être autre chose. Puis aussi, ben moi, c'est sûr que ça me demande un peu de supervision, mais en même temps, ça me dérange pas, même s'ils font des petites boules avec leurs vêtements, tu sais, ça leur appartient. Je veux dire, on s'en va pas dans un gala. C'est pas grave si les vêtements sont fripés. Puis eux sont vraiment fiers de plier ça. Puis ça les rend comme excités de choisir leurs vêtements. Donc souvent, ils se disent, OK, demain, je vais mettre ça ou ce soir, je vais mettre ce pyjama-là. Donc, je trouve ça vraiment bien aussi pour notre quotidien. Donc, je trouve ça le fun. Ils sortent leurs propres vêtements, ça fait quand même déjà longtemps. Ça aussi, c'est leur choix. Tant qu'ils sont habillés en fonction de la saison, moi, ce qu'ils ont choisi, ça ne me dérange pas. Donc, tu sais, c'est vraiment. Je vois même pas pourquoi c'est un département que je ferais toute seule quand que eux, ils ont du plaisir, ils apprennent des choses, ils sont fiers. C'est vraiment un win-win. Donc, c'est vraiment le fun pour ça. Puis, j'ai aussi fait un genre de calendrier dans mon agenda où j'ai mis les tâches, par exemple, que je vais faire mensuellement ou à chaque semaine, comme fertiliser les plantes. Qu'il y a des plantes que j'ai dans la maison, ça fait 3 ans, ça m'était jamais arrivé de leur mettre de l'engrais. Ils poussaient quand même, donc c'était correct. Ils sont pas mortes. Bien, certaines ont eu la vie plus dure, mais en général, c'était correct. Puis, c'est ça, mais maintenant, je suis contente. J'ai l'impression de faire une meilleure job de maman de plantes, si on veut. Mettons qu'on peut appeler ça comme ça. Donc, ça m'aide à me créer de l'espace mental pour les choses qui sont vraiment importantes, de ne pas avoir à perdre de l'espace, perdre du temps de réflexion, à me demander, ah, quand est-ce que je vais faire ça? C'est quand la dernière fois que j'ai fait ça? Etc. Donc, c'est vraiment dans ma vision du self-care, dans ma vision de l'amour de soi. C'est un beau cadeau à se faire de prendre du temps pour planifier des trucs, même si ça a l'air vraiment banal. Mon conjoint, lui, il a vraiment pas besoin de que ce soit écrit là, comme il s'en souvient, il pense. Pour lui, il trouve pas que c'est de l'espace mental. Mais je sais pas, pour moi, on dirait qu'avec, surtout avec l'école maison, avec les traitements de notre fille, les différents rendez-vous à prendre, je trouvais que ma charge mentale était vraiment grande, même si les tâches ménagères, entre autres, sont vraiment bien réparties et tout. Puis même si mon conjoint est vraiment ouvert à faire plein d'affaires, moi, je sentais quand même que c'était à moi de me souvenir et tout. Je sais pas si c'est comme une chose qu'on fait, les mamans, les femmes, ou je sais pas trop, de se mettre cette pression-là soi-même, ou si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne en général chez les couples. Mais c'est ça. Moi, je me sentais quand même souvent responsable de faire certaines tâches. Puis c'est ça. Maintenant, de prendre le temps de planifier plus de trucs à ce niveau-là, même les trucs banals comme arroser les plantes ou les fertiliser, pardon, des choses comme ça. Mais ça fait que j'ai pas besoin d'y penser. Donc, mon cerveau est pas occupé toute la journée à « Ah, oh, faut pas que j'oublie ça, c'est vrai, je dois faire ça, faut acheter un nouveau manteau de printemps aux enfants, ils ont plus de bottes de pluie, blablabla. » Donc, tu sais, j'ai encore ces pensées-là, mais aussitôt que j'ai une petite pensée en lien avec quelque chose que je peux pas régler immédiatement, je vais l'indiquer dans mon agenda, soit de cellulaire ou mon agenda papier. Dans le moment où je pense que ça va être le bon moment de le gérer. Puis comme ça, j'ai plus besoin d'y penser. Je l'ai déjà partagé, ce truc-là. Là, c'est pas nouveau, c'est pas une révélation. Mais vraiment, à ce jour, c'est encore un de mes meilleurs trucs. Mon agenda de téléphone est rempli de tâches par rapport, comme ne pas oublier d'acheter du pain ou des choses comme ça. Comme si je sais que je m'en vais en ville, quand on habite un peu plus loin, pour moi, aller à la chute, c'est comme aller en ville. Donc, quand je me ramasse à aller, par exemple, là où il y a des magasins, mais je vais me mettre des petites notes sur les choses que je veux pas oublier. Si je veux pas oublier d'arrêter, porter les livres à la bibliothèque, je vais me l'indiquer comme un événement quelques minutes avant l'autre événement, dans les heures où je vais être susceptible de pouvoir réaliser cette tâche-là. Comme ça, ben, je m'appuie beaucoup peut-être sur la technologie plutôt que sur mes facultés mentales, mais ça me laisse vraiment beaucoup d'espace pour ensuite pouvoir focusser sur les affaires qui me tentent, qui m'intéressent, puis que j'ai envie de me rappeler. Donc, j'ai fait ça maintenant pour les tâches ménagères, je fais ça pour beaucoup de choses. L'épicerie, même chose, les idées de repas, des fois, ça me pop. Pendant que je suis au magasin, j'achète un aliment spécifique pour faire une recette spécifique. Donc là, je vais l'indiquer comme un événement pour le soir même, pour pas oublier que j'ai tous les ingrédients pour faire cette recette-là, des petits trucs comme ça. Donc, c'est ça. Peut-être que c'est limite trop, mais pour l'instant, ça fonctionne extrêmement bien. J'ai vraiment plus de facilité depuis que je fais ça à être dans le moment présent aussi. Les fois où je me réveille dans la nuit, c'est rarement parce que je pense en boucle à quelque chose que je dois faire ou qui me stresse. C'est vraiment des fois parce que ben, ça fait déjà comme un moment que je dors, puis on dirait que je suis juste moins fatiguée. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi. Puis ça me permet justement de mettre en place d'autres. Comment je pourrais dire? D'autres facettes de moi que je veux plus mettre de l'avant. Donc, ouais. Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là. Mais en gros, c'est ça. C'est faut pas. Je pense faut pas oser. En fait, faut pas ne pas oser. Excusez, trop de négation dans ma phrase. T'sais, je pense, faut pas s'empêcher de mettre quelque chose de l'avant parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas, parce que ça a l'air trop complexe, parce qu'on a échoué dans le passé, parce qu'on pense que c'est pas accessible assez fréquemment à notre goût. J'avais déjà fait un défi de méditation dans le passé où la personne mentionnait que c'était beau méditer 30 minutes une fois par mois. Mais c'est encore mieux méditer 2-3 minutes tous les jours. La pratique devient plus ancrée, elle devient de plus en plus facile à placer dans son quotidien, les excuses deviennent de moins en moins nombreuses. Quand on fait quelque chose quotidiennement, même si c'est pour pas longtemps. Donc, pardon, j'avais un chat dans la gorge. Donc, je pense que c'est important de se respecter là-dedans, de respecter notre corps, de respecter notre énergie, les fluctuations de nos hormones qui peuvent va vraiment varier d'une journée à l'autre. C'est important d'être vraiment bienveillant envers soi-même aussi. Ça arrive. Moi, souvent, là, honnêtement, les choses que je veux faire au quotidien, que je ne fais pas, c'est vraiment parce que j'ai oublié. C'est très rare, même dans le passé, quand ma pratique de yoga était moins régulière. Les jours où je faisais pas de yoga, c'est pas parce que je me disais « Ah, oh, est-ce que je fais du yoga? Ah oh, non, ça me tente pas. Ah, oh, je suis trop fatiguée. Ah, oh, X ou Y, raison. » C'était vraiment que j'arrivais le soir, je me couchais, je me réveillais le lendemain, puis des fois, ça pouvait prendre 2, 3 jours avant que je fasse « Ah oh, non, j'ai même pas fait de yoga. » Donc, tu sais, c'était même pas mal intentionné. C'était vraiment. Puis, tu sais, ça serait correct aussi de décider que pour une raison X ou Y, on le fait pas. Il y a vraiment pas de problème avec ça. Mais je veux dire, c'était vraiment à la limite naïf de ma part d'oublier quelque chose qui était pourtant quelque chose d'important pour moi, quelque chose que je savais qui aurait plein de bienfaits, qui m'apporterait énormément. Donc, c'est ça. Je crois que je vais finir par rapport à ce sujet-là là-dessus. J'espère que ça va vous inspirer à oser peut-être sortir de votre zone de confort, oser essayer quelque chose de nouveau, oser reprendre une pratique que vous aimiez, qui vous apportait du bien, mais que vous avez tassée, oser être imparfait aussi, oser nommer que vous êtes une personne qui fait ça haut et fort, comme moi je le fais, comme si ça faisait des années, alors que c'est assez récent. On s'entend là, juste pour faire une petite parenthèse, je pensais pas comme un mois sans faire de yoga là. C'est pas comme irrégulier à ce point-là. Comme j'ai dit, je faisais en plus déjà des respirations puis d'autres trucs comme ça, mais de le faire avec une intention de se prioriser. C'est vraiment très puissant. C'est vraiment aussi, je trouve, une belle marque de respect puis d'amour de soi, d'aviser la maisonnée qu'on fait quelque chose maintenant pour soi, puis qu'on aimerait être respecté là-dedans. Ça, ça m'est arrivé là, d'être en train de faire du yoga puis de m'énerver après les enfants parce que, par exemple, je suis une vidéo puis ça fait 4 fois que je dois mettre pause puis ça fait 4 minutes que c'est commencé. Puis dans ma tête, c'était un non-sens. Je me disais, voyons, je fais du yoga, pourquoi? C'est pour trouver la paix en moi, c'est pour me sentir bien, c'est pour être plus pacifique, bienveillante, calme, relax, tout ça. Puis là, on dirait que c'était vraiment un non-sens quand les fois où je me sentais très irritée, très impatiente, très agressée par le fait que je devais arrêter ma pratique bien-être pour ça. Ça va arriver encore, ça m'est arrivé depuis que j'ai commencé à avoir une pratique régulière. Ça va encore arriver, ça va arriver peut-être même demain. Mais c'est pas grave, maintenant j'ai changé cette mentalité-là. J'ai accepté que il y a une pratique parfaite pour moi, si c'en est une qui est imparfaite, qui nécessite plus de pauses, qui nécessite de changer les plans une journée pour aller plutôt vers quelque chose qui convient mieux. En aucun cas, ça diminue la qualité de la pratique. En aucun cas, ça diminue notre propre qualité, notre propre valeur. Donc, je crois que c'est vraiment, vraiment important de se rappeler de ça. Puis, dans ma formation professorale de yoga, on avait parlé en fait de ce qui différencie un pratiquant débutant d'un pratiquant intermédiaire. Puis le résultat de ça en fait, c'est qu'un pratiquant qui est intermédiaire, c'est pas nécessairement un pratiquant qui est capable de faire des postures sur la tête ou qui est capable de rester très longtemps dans une posture ou qui est très flexible, qui fait le pretzel et tout. C'est la capacité à être à l'écoute de son corps, à ne pas dépasser 80% de ce qu'on est capable, toujours pour protéger l'intégrité des articulations, l'intégrité de son corps, pour éviter les blessures. Parce que c'est sûr que si on se blesse, bien, le lendemain, notre pratique va prendre le bord. On va être trop raqué, on va avoir trop mal, ou on va se dire, ah, c'est n'importe quoi, c'est pas une pratique qui est faite pour moi. Alors que quand on est à l'écoute de soi, qu'on reconnaît sa limite, qui est une limite différente tous les jours, moi, j'amène toujours une couverture, même deux, et des blocs. Puis d'une journée à l'autre, la même posture va me demander des accessoires pour m'appuyer ou pas. Puis c'est vraiment correct comme ça. Il y a des jours où on est peut-être un petit peu raqué d'un entraînement ou de ce qu'on a fait ou de la nuit qu'on a eue. Et il y a des jours où on est moins flexible que d'autres. Puis c'est correct, c'est pas parce qu'on est moins bon, c'est pas parce qu'on a relâché. Il y a des postures que moi, je préfère tenir plus longtemps en ayant un appui sur un bloc que de garder quelques secondes de peine et de misère parce que j'ai décidé ce jour-là de mettre ma main au sol alors que dans mon corps, c'était vraiment pas accessible pour cette journée-là, que c'était vraiment pas en service à mon bien-être. Puis, je pense que c'est important d'avoir cette flexibilité mentale-là pour tout ce qu'on veut entreprendre. Même si ça ressemble pas à ce qu'on avait prévu, même si ça ressemble pas à la pratique de quelqu'un d'autre, d'une personne qu'on admire, c'est vraiment parfait pour le yoga, mais pour d'autres choses aussi. On se comporte toujours soi-même avec soi-même. Puis encore là, c'est même pas dans un souci de performance. Moi, s'il y a une journée que je fais la posture sans bloc, puis le lendemain, je mets un bloc. Je me dis pas, ah, oh, je suis vraiment poche. Hier, j'avais pas besoin de bloc, pour aujourd'hui, oui. Je me dis, hey, wow, j'ai vraiment grandi à travers ça parce qu'aujourd'hui, je le ressens que j'en ai besoin. Puis là, je suis plutôt fière de moi, de m'écouter, de me respecter, puis de quand même faire ma posture. Parce que j'aurais pu décider de débarquer de mon tapis ou de faire autre chose pendant ce temps-là, qui est bien correct, soit dit en passant, là, je suis vraiment bien ouverte à tout ça. Mais des fois, la plus grande barrière est dans notre tête, même quand c'est pour une limitation physique. Comme quand on s'entraîne puis on pense qu'on n'arrivera pas à faire l'entraînement pour toutes les secondes qui sont supposées. Donc, si on doit faire une série de 15, parfois après 10, on pense qu'on sera plus capable. Mais là, si on respire, qu'on envoie plein d'amour dans les muscles qui travaillent, ça se peut qu'effectivement, après 10, c'était assez pour la journée. Mais ça se peut qu'on est capable de se rendre à 12. Ça se peut qu'on soit capable de se rendre à 15 aussi. Donc, il faut vraiment se questionner pour savoir où est le blocage, puis quel type de personne on a envie d'être cette journée-là. Est-ce qu'on a envie d'être une personne qui se questionne puis qui prend la meilleure décision pour elle-même, ou on a envie d'être une personne qui écoute son cerveau, qui arrête, puis ensuite qui est peut-être pas fière d'elle. Donc, en gros, je crois que c'était ça mon message par rapport à ça. Je vais sûrement vous en reparler. C'est vraiment une manière de voir les choses, de voir la vie qui est vraiment bénéfique pour moi à différents niveaux que je continue d'appliquer dans mon quotidien. Ouais, c'est vraiment beau, c'est vraiment fort. Ça m'aide vraiment à mettre ça de l'avant, à transformer la version de moi-même pour une version encore plus alignée, encore plus épanouie. Donc, une version de moi qui est plus prête à briller, à rayonner pour les autres aussi, à partager sa magie. Donc, ça m'amène vraiment à des beaux constats, une belle prise de conscience, puis une belle assurance qui découle de ça. Donc, je crois que je vais arrêter l'épisode là-dessus parce que là, j'avais d'autres trucs que j'avais envie de partager, mais ça fait déjà comme 45 minutes que je vous parle. Vous êtes peut-être même plus là. Si vous êtes là, merci. Merci d'avoir écouté pour toute la durée de l'épisode. Si vous avez envie de venir me partager vos trucs, ça me fait toujours hyper plaisir d'échanger. Ça vous a fait des belles prises de conscience aussi, venez m'en parler. Il y a des fois certaines transformations que je vis que je viens pas partager parce que j'ai beaucoup le sentiment de l'imposteur quand c'est des trucs qui sont nouveaux dans ma vie. Mais maintenant que je travaille beaucoup sur moi puis que j'apprends à me connaître à travers ma carte du ciel, à travers mon human design et des trucs comme ça, j'ai appris que j'étais une personne comme ça qui est plutôt là pour partager les trucs puis se péter un peu la gueule. Donc je l'accepte plus facilement. Donc, même quand mes sujets sont pas étoffés, ça me fait quand même plaisir de venir les partager. D'ailleurs, j'avais un gros questionnement récemment sur si j'effaçais tous mes vieux épisodes de podcast parce que j'ai tellement grandi depuis que j'ai lancé le podcast, ça fait comme déjà 2 ans. Puis je me sens tellement une personne différente de la personne qui enregistrait au début. Je me sens tellement plus incarnée, tellement plus habile à partager. J'ai vraiment plus intégré aussi les choses que je partage. Donc, bref, j'avais envie de supprimer comme tout ça, d'effacer puis de repartir à zéro. Mais finalement, ben, ça fait partie de mon cheminement puis je trouve que c'est important de le laisser là. Donc, c'est pour ça que si vous écoutez les épisodes dans le désordre, vous allez peut-être trouver que parfois, ce que je dis varie. Mais c'est ça, c'est vraiment la preuve de mon évolution à travers tout ça. Puis parfois, ben, y a des trucs que je savais pas quand j'ai partagé la première fois que j'ai appris parce que je continue toujours à pratiquer puis à étudier entre-temps. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais, venez me jaser, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour être motivé aussi, venez m'écrire c'est quoi vos challenges que vous voulez commencer. Puis, ça va vraiment me faire hyper plaisir d'être là pour vous motiver, pour vous aider à trouver des pistes de solutions. Si vous voyez présentement plus de blocages que de solutions pour ces projets-là, moi j'ai tellement d'idées. Je crois être une personne extrêmement créative qui voit vraiment pas beaucoup de limites, mais beaucoup de solutions. Donc si ça peut bénéficier à des gens, ben tant mieux. Ça serait une belle façon pour moi d'honorer qui je suis. Puis ça me fait toujours plaisir de pouvoir le partager. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Puis on se reparle, j'espère, très bientôt pour un prochain épisode. Bye!